Vous écoutez, on lit pour vous.
Comment les guerres de religion font-elles écho à notre présent? Un texte de Jean-François Nadeau, paru le 29 octobre 2024 dans Le Devoir. Qu'est-ce que les guerres de religion? C'est assez simple, explique l'historien Jérémy Foa. Dans la société française, à partir de 1560, quelque chose de nouveau surgit. Cette nouveauté, c'est la division religieuse. Il en résulte, d'une certaine façon, des questions qui se posent toujours à nous. Comment vivre ensemble? Comment composer avec la différence? Jérémy Foa vient de publier « Survivre », une histoire des guerres de religion envisagée depuis la position des gens ordinaires. Auparavant, on a une société qui est complètement uniforme, d'un point de vue religieux. Tout le monde est catholique. À partir de 1560, il y a désormais deux religions qui sont autorisées par la monarchie française, le catholicisme et le protestantisme. Du fait de cette double autorisation, il va y avoir des conflits très importants entre une minorité protestante, environ 10% de la population du royaume, et la majorité catholique. Ce sera une véritable guerre civile. Mon livre invite à réfléchir à l'éducation au vivre ensemble. C'est un livre qui doit, en tout cas je l'espère, pointer du doigt ce que les fanatismes font à la société et qui nous invite à accepter et vivre avec l'autre dans sa différence, à penser les différences, qu'elles soient religieuses ou ethniques ou de toutes sortes. Les différences sont une richesse pour les sociétés. Ce n'est absolument pas un problème. Ce livre peut offrir des leçons de coexistence pacifique. Dans un livre précédent, « Tous ceux qui tombent », 2021, Jérémy Foa s'est intéressé au massacre de la Saint-Barthélemy, cette immense boucherie survenue en 1572. Ceux de la religion prétendue réformée, comme on nomme, par périphrase, les protestants, sont malmenés, épiés, pourchassés, exécutés. Un certain nombre d'entre eux vont se retrouver en Nouvelle-France. Les protestants persécutés, quand ils ont pu, au XVIIe siècle surtout, on sait qu'ils se sont réfugiés en Amérique. Du côté de ce qui forme les États-Unis aujourd'hui, mais aussi, bien sûr, dans cette portion de la Nouvelle-France qu'on nomme aujourd'hui le Québec. Les gens qui sont arrivés en Nouvelle-France ont vécu dans leur chair l'histoire des persécutions des guerres de religion. Ils les ont connus de près, rappelle l'historien. Pour éviter d'être malmenés dans le Nouveau Monde, ces protestants ont usé précisément des savoir-faire du travestissement qu'ils avaient acquis en France et que déconstruit Jérémy Foa dans « Survivre ». Les raisons de dissimuler son identité religieuse en France peuvent être employées dans d'autres contextes. Ce savoir-faire de l'action clandestine va servir aux immigrés du Nouveau Monde. Le masque permanent. Au temps de la guerre de religion, toute la société apprend à porter le masque. Chacun se dissimule à l'autre, affirme l'historien, un peu comme dans un tableau de James Ensor. Ce qui n'est pas sans faire songer à la société d'aujourd'hui. Il n'est pas possible de connaître l'identité de quelqu'un seulement avec son vêtement. Cette image du masque se trouve au cœur du livre. Nous sommes devant une société de l'angoisse. Une angoisse qui est corrélée à la présence permanente de gens qui avancent masqués. Comment échapper à la mort promise si on ne partage pas la même religion que son voisin? Comment se sauver? En apprenant au plus vite à se dissimuler au grand jour, c'est-à-dire à mentir, à préserver son identité profonde de la surface de la vie sociale. Il faut se cacher des uns et des autres, de son voisin comme de sa famille. Chacun apprend ainsi à porter le masque de la vie en commun, en préservant pour lui ce qui relève de la sphère privée. Voilà tout un changement qui survient en société. Foy montre que, entre 1562 et 1598, pour survivre aux guerres de religion, chacun apprend à se comporter de façon nouvelle en complexifiant sa manière d'être, en brouillant les repères. Les individus ont appris, plus que jamais, à masquer leurs croyances intimes pour survivre. Si bien qu'il n'est plus possible de se fier à rien. Les objets eux-mêmes deviennent masqués. Ce qui semble un objet tout à fait anodin peut soudain dissimuler une bombe. Les maisons qui, en apparence, peuvent paraître tout à fait inoffensives, abritent des comploteurs. Elles peuvent receler des armes ou des livres interdits. Vous écoutez « Comment les guerres de religion font-elles écho à notre présent ?» un texte de Jean-François Nadeau, paru le 29 octobre 2024 dans Le Devoir. Le paravent des mots. Non seulement les comportements se sont trouvés bouleversés, mais la langue française elle-même également, explique Jérémy Foy. Nous voici devant des mots prononcés de la bouche, mais qui n'engagent pas le cœur, afin de préserver le corps. La langue se dédouble entre espace sonore et réserve mentale, ce qui est dit publiquement n'impliquant pas d'être pensé secrètement. Cet usage répété du mensonge engendre en société une langue qui ne veut rien dire, parce qu'elle s'emploie d'abord à servir la dissimulation, en plus de développer un appauvrissement de la langue elle-même, avance l'historien. En somme, l'univers de guerre de religion entraîne, pour la langue, le contraire de ce qu'expose George Orwell dans 1984, son célèbre roman. Dans le monde que décrit Orwell, deux opinions contraires peuvent tenir dans l'expression d'un même mot. La parole est volontiers endormie pour que les mots n'aient plus de sens fixe. À l'heure des guerres de religion, au contraire, les mots fourchent. La langue de 1984 commande le consensus, celle de 1584, le dissensus. La langue d'Orwell est créée au sommet de l'État. Elle anesthésie la pensée. Au temps des guerres de religion, au contraire, ce n'est absolument pas le pouvoir ni l'État central qui impose ces mots d'ordre. On n'a pas une langue qui tombe du ciel et qui empêche les personnes de penser, au contraire. La langue des troubles, elle vient du bas. Elle vient du peuple. Au lieu d'empêcher de penser, elle stimule. C'est une période de grande créativité intellectuelle. Auprès de Montaigne, tout au long de son livre, qui repose sur le récit de micro-histoires individuelles auxquelles s'attache une suite de faits divers, Jérémy Foy s'appuie sur le grand Montaigne comme guide. Montaigne est pour moi le meilleur guide des guerres civiles. Il écrit son chef-d'œuvre, Les Essais, en plein cœur des guerres de religion. Il témoigne de sa vie quotidienne dans un monde hostile avec des ennemis. C'est quelqu'un qui réfléchit énormément à ce qu'est une société qui est traversée par la dissimulation. Montaigne s'intéresse à ce qu'est la vérité, ce qu'est le mensonge et ce qui doit être fait devant les gens qui mentent. On peut prendre les essais comme un manuel de survie au XVIIe siècle. Il raconte des anecdotes, des aventures qu'il a traversées qui nous permettent de voir ce qu'un contemporain devait faire pour s'en sortir. Une des tactiques employées, exposées par Montaigne, est de cacher ses émotions. Les plus vulnérables, ce sont ceux qui sont incapables de dissimuler leur peur, de dissimuler leur transpiration, leur bégaiement. Le stoïcisme de Montaigne est une des leçons des guerres de religion. Vivre, c'est désormais apprendre à maîtriser ses émotions. Un héritage. Ces passions des religions qu'ont-elles léguées ? La nécessité pour les individus de vite apprendre à user de stratagèmes. Il faut savoir mentir, feindre, simuler, se cacher, tout cacher, y compris sa véritable identité la plus intime, en des temps où les peurs immenses reviennent sans cesse hanter l'humanité. C'est l'historien Patrick Boucheron, éditeur aux éditions du Seuil, qui a commandé l'écriture de ce livre. Son intention, explique Foa, était de montrer comment l'histoire éclaire le présent dans la perspective de mieux comprendre le vivre ensemble. Je suis toujours très content quand les lecteurs tirent du travail de l'historien du XVIe siècle des liens pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Moi, comme historien, je ne le fais pas. Mais je tends les perches aux lecteurs, puisque tout cela fait beaucoup penser à ce qui se passe dans notre société. Une société dans laquelle il est désormais très difficile de s'appuyer sur les apparences parce que les apparences elles-mêmes sont brouillées. C'était « Comment les guerres de religion font-elles écho à notre présent ?» un texte de Jean-François Nadeau paru le 29 octobre 2024 dans Le Devoir.
Une échelle de domesticité des animaux, un texte de Mathieu Perrault, paru le 27 octobre 2024 dans La Presse. Jean Pellerin, un lecteur, demande « Quel serait un bon classement des espèces d'animaux par docilité? » Un tel classement n'existe que pour les vaches. Il sert à identifier les taureaux placides de races plus turbulentes. Mais la docilité est un domaine d'étude fécond. Elle est abordée dans le cadre de recherches sur les effets neurologiques de la domestication des animaux. Quand une espèce sauvage est domestiquée, les animaux deviennent plus dociles. L'échelle de docilité a été mise au point dans les années 1990 par une association américaine d'éleveurs de bœufs limousins. Ce sont des bœufs qui ont la réputation d'être nerveux et agressifs, explique Pierre Deranlot, zootechnologue, travaillant depuis plus de 30 ans au Centre d'insémination artificielle du Québec. Lorsqu'ils doivent recevoir des vaccins et d'autres soins et traitements, les bœufs sont amenés dans des corrales, de petits enclos qui simplifient le travail des producteurs bovins pour manipuler ces animaux. Cette immobilisation peut rendre les bêtes agressives. Les éleveurs avaient beaucoup de difficultés à vendre leurs animaux reproducteurs et cherchaient une solution. Selon les calculs des biologistes, 40% du comportement des limousins était héréditaire. Des questionnaires ont donc été distribués aux éleveurs pour identifier les lignées moins agressives. Pierre Deranlot explique « On demandait si, après avoir été libéré du corral, où il était immobilisé, le bœuf restait sans bouger, ou alors s'en éloignait lentement, ou vite, ou pire, s'il se retournait vers les humains pour les attaquer. » L'échelle de docilité a ensuite été étendue à la race Angus, aussi réputée comme étant agressive. Y a-t-il des inconvénients à choisir des bœufs moins agressifs? Au contraire, répond M. Deranlot, les bœufs agressifs sont plus stressés, donc ils prennent moins de poids et ont moins de succès reproductif. L'agressivité chez les vaches pose beaucoup moins de problèmes sauf lors du vêlage, précise M. Deranlot. Renard argenté. Dans certains cas, on relève des inconvénients à choisir l'espèce moins agressive. Dans la Russie soviétique des années 1950, une espèce de renard argenté domestiqué a été créée par croisement. Il voulait avoir plus de facilité dans les élevages de fourrure, explique Cara Gabriel, psychologue et éthologue de l'Université du Centre de Washington. Mais il y a eu des changements dans la fourrure. Le renard domestiqué avait des raies blanches sur la tête. sa fourrure valait moins cher, poursuit-elle. Ces changements physiques sont appelés syndrome de domestication. Adam Wilkins, biologiste de l'Université Humboldt à Berlin, explique « Généralement, les animaux domestiqués vont avoir des oreilles plus grandes, une pigmentation moins foncée et une plus petite mâchoire. On ne sait pas pourquoi ces changements physiques accompagnent les changements neurologiques qui rendent un animal plus docile, moins peureux. » Monsieur Wilkins cherche à déterminer quelles régions du cerveau sont associées à la docilité. Étrangement, d'autres recherches ont déterminé que chez le bovin, les gènes de la docilité sont proches de ceux qui causent l'autisme chez l'humain. Il y a aussi un débat sur ce qui constitue la docilité, dit le biologiste. Je pense que c'est une peur accrue. D'autres pensent que c'est plutôt une agressivité plus faible. La thèse de la domesticité moins agressive est soutenue par Richard Wrangham, primatologue de l'Université Harvard. Contrairement à M. Wilkins, le chercheur bostonnais ne pense pas que la docilité est due à une peur plus grande des humains, mais plutôt à une agressivité moindre envers autrui. On pourrait considérer de toute façon, dit-il, que la peur et l'agressivité sont un même phénomène, les deux côtés d'une médaille. M. Wrangham étudie les bonobos, des cousins des chimpanzés moins agressifs. Pour moi, l'agressivité moindre des bonobos est en quelque sorte une auto-domestication qui favorise les échanges sociaux. C'est la même chose qui s'est produite chez les premiers humains. Les bonobos ont un cerveau plus petit que celui des chimpanzés et pourtant, ils sont aussi, sinon plus, intelligents. Les mammifères domestiques ont en moyenne un cerveau 15% plus petit que leurs cousins sauvages, mais ne semblent pas perdre de facultés cognitives, souligne M. Wrangham. C'est comme s'il y avait un élagage bénéfique des neurones du cerveau. Vous avez une question scientifique? Écrivez-nous. En savoir plus, source le bulletin des agriculteurs, 6% proportion des vaches canadiennes qui sont agressives, 37% proportion des éleveurs canadiens qui ont déjà été blessés intentionnellement par une vache lors du vêlage. 53% proportion des éleveurs canadiens qui se sont débarrassés d'une vache les ayant blessés. C'était une échelle de domesticité des animaux, un texte de Mathieu Perrault, paru le 27 octobre 2024 dans la presse.
Susan Holt entre dans l'histoire du Nouveau-Brunswick. Un éditorial de Damien Dauphin, paru le 23 octobre 2024 dans Le Moniteur acadien du Nouveau-Brunswick. Dans un éditorial publié il y a plus de 2 ans, édition du 27 juillet 2022, et intitulé « Choisir l'alternance », j'avais écrit que Susan Holt me semblait être la meilleure option pour prendre la tête du Parti libéral du Nouveau-Brunswick. Cette prise de position m'avait valu quelques critiques dans la région sud-est, où les ténors du parti soutenaient, ce qui est bien normal, la candidature de Robert Gauvin. Certains ont prétendu que j'avais outrepassé mes prérogatives, un peu comme si j'avais appelé à voter libéral aux élections générales. C'est évidemment inexact. Ma position impose la neutralité et implique que je me situe au-dessus de la mêlée partisane. Dans l'éditorial en question, je m'étais bornée à exposer les raisons pour lesquelles les militants libéraux avaient intérêt à choisir Susan Holt pour redresser la barre de leur formation politique. Aujourd'hui, je peux dire avec fierté que j'étais visionnaire. Pendant 2 ans, Susan Holt a labouré la province. Elle est allée à la rencontre des gens et a pris le temps de les écouter. Elle a pris note de leurs préoccupations et de leurs espoirs. Son approche collaborative lui a permis de s'appuyer à la fois sur des libéraux historiques et de nouveaux venus dans l'arène politique. Les politologues trouvaient qu'elle manquait de charisme et peinait à se faire connaître. Ces derniers mois lui ont donné l'occasion de se révéler. Ce fut particulièrement remarquable lors des débats télévisés durant lesquels elle a brillé. En comparaison, ses adversaires avaient l'air ternes. Madame Holt a gagné son ticket d'entrée à l'Assemblée législative au printemps 2023 à la faveur d'une élection partielle qui lui offrait le choix entre 3 circonscriptions. Dans la région, nous aurions été heureux qu'elle choisisse de succéder à Roger Melançon dans Dieppe, aujourd'hui Dieppe-Memramcook. Elle a plutôt décidé de se présenter dans Bathurst-Est, Népicéguit-Saint-Isidore, dans la baie des Chaleurs. Elle a justifié son choix en disant que cette circonscription représentait, en quelque sorte, le Nouveau-Brunswick dans toutes ses composantes, avec ses 3 principales communautés, anglophones, acadiennes et autochtones. Cela annonçait sa volonté de représenter absolument tout le monde, sans laisser quiconque de côté. Lorsque, pour l'élection générale qui vient d'avoir lieu, elle a décidé de tenter sa chance dans Fredericton Sud Silverwood, rien n'était acquis d'avance. C'était un pari risqué. Il est heureux qu'elle l'ait gagné, car sa légitimité en dépendait. À présent, elle est incontestable. En 1987, Aldéa Landry avait marqué l'histoire de la province en devenant la vice-première ministre de Frank McKenna. Originaire de Sainte-Cécile, dans l'île de Lamech, elle réside à Moncton depuis des années. Nul doute qu'elle ait été une source d'inspiration pour Susan Holt, qui vient de faire sauter un autre plafond de verre et entre à son tour dans l'histoire. C'est bel et bien une élection historique que nous venons de vivre. En comptant Susan Holt, ce sont 17 femmes appartenant aux 3 partis politiques représentés à l'Assemblée législative qui ont été élues lundi soir. Certes, ce n'est pas encore la parité, mais c'est un autre jalon qui vient d'être atteint. Les espoirs qu'avait le Parti vert de détenir la balance du pouvoir ont été réduits à néant. La majorité obtenue par les libéraux ne leur impose pas de négocier des compromis avec un tiers parti. Je souhaite toutefois qu'ils reprennent à leur compte certaines propositions émises par David Coon et ses troupes. En particulier, j'aimerais qu'ils n'oublient pas les enjeux climatiques qui concernent au premier plan le littoral acadien. À cet égard, je suis curieux de voir comment la volonté de décentralisation dans les régions que promeut Susan Holt va se traduire de façon concrète sur le terrain. La démocratie participative est une notion relativement nouvelle au Nouveau-Brunswick. Or, de plus en plus, les citoyens éprouvent le besoin de se sentir écoutés. Susan Holt l'a fait depuis 2 ans. Ce mouvement doit continuer. Blaine Higgs quitte la scène politique sur une double défaite personnelle. Vaincu dans son fief de Quispamsis par 193 voix d'avance il ne sera pas le chef de l'opposition officielle. Sa dérive droitière a été sanctionnée par les électeurs et sa candidate vedette dans Hampton, Fundy, St. Martins, Faitin Graseski, n'a pas été élu. En revanche, il ne faut pas oublier que M. Higgs a fait entrer le loup dans la bergerie en intégrant dans son parti Chris Austin et Michelle Conroy, deux députés de l'anti-francophone People's Alliance. Ce parti est le succédané contemporain de la Confederation of Regions, dont le premier ministre sortant portait les couleurs au début des années 1990. Or, Mme Conroy et M. Austin ont tous deux retrouvé leur siège, la première avec 50,85% des voix et le deuxième avec 54% des suffrages exprimés. Qui va devenir le chef de l'opposition officielle? Les politiques de Blaine Higgs ont fait du tort à un parti conservateur qui doit absolument retrouver ses couleurs progressistes. Les Acadiens ne doivent pas laisser des anglophones nostalgiques de la politique de grand-papa accaparer un parti qui, sous les mandats de Richard Hatfield et de Bernard Lord, avait embrassé leur cause en confirmant et en consolidant la loi sur les langues officielles. Lorsque s'ouvrira la succession de Blaine Higgs, j'inciterai les militants du PCNB à revenir à ses racines progressistes. Le moment venu, je les inviterai à se donner pour chef, par exemple, quelqu'un comme Daniel Alain. Ce serait d'autant plus crucial si Chris Austin, confortablement réélu lundi soir, ambitionnait de prendre les rênes du parti. En attendant, place au gouvernement Holt, la première femme première ministre de l'histoire du Nouveau-Brunswick. C'était Susan Holt entre dans l'histoire du Nouveau-Brunswick, un éditorial de Damien Dauphin, paru le 23 octobre 2024 dans Le Moniteur acadien du Nouveau-Brunswick.